C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, Eugénie, bafouée par son époux, se met à flirter et à se mêler activement de politique. Le scandale éclata à Vichy où l'empereur et l'impératrice prenaient les eaux lorsque Margot, censée s'y faire discrète, vit son épagneul se précipiter sur Louis pour lui faire fête alors que les altesses se promenaient place Rosalie. Après une scène homérique, Eugénie rentra à Saint-Cloud tandis que Louis, sans plus se gêner, recevait Margot dans son chalet privé. Elle devait l'accompagner à Plombières puis à Biarritz. Là, Louis mena une vie sexuelle effrénée partagée entre Margot et une nouvelle conquête, ce qui, à 55 ans, lui occasionna des malaises. Vint le jour où Margot tomba enceinte et accoucha d'un petit Charles, du moins si l'on en croit la rumeur, mais une autre version circula sous le manteau. Louis avait eu envie de goûter au charme d'une vierge, et Valentine, la fille du baron Haussmann, âgée de 15 ans et peu farouche, fit l'affaire, avec la complicité de son père. Mais Loisel se retrouva enceinte, restée à Margot à jouer le rôle de la femme enceinte, poussant la comédie jusqu'à crier durant un pseudo-accouchement avec présentation d'un bébé qui n'était pas d'elle. Le petit Charles devint Charles Leboeuf et eut une vie obscure. Napoléon III, soulagé d'avoir ainsi échappé à un scandale international, multiplia les coucheries et fut victime d'un malaise en revenant de chez Margot. Eugénie se fit conduire chez la maîtresse et lui demanda de renoncer à sa liaison contre une rente afin de préserver la santé de l'empereur. Mais comme ce dernier ergoté refusait de renoncer au charme de Margot, Eugénie partit pour une deuxième escapade qui la conduisit à Schwalbach en Hesse. Elle en revint, au bout de 6 semaines, à la condition de ne plus recevoir l'empereur dans son lit. Et une vie de couple sans rapport physique vit le jour. L'empereur compensa avec quelques maîtresses, dont la petite Valentine. L'impératrice, elle, trouva son bonheur à se mêler de la politique. Des langues malveillantes ayant susurré aux oreilles d'Eugénie que Margot avait accouché d'un enfant de l'empereur, ce dernier dépêcha en urgence un émissaire pour obtenir de Margot qu'elle écrive que son pseudo-enfant n'était pas de Louis, lettre dans laquelle elle reconnaîtrait sa faute, accompagnée d'une lettre d'adieu. Il fallait absolument éviter que l'impératrice ne s'exile à Biarritz. Les lettres furent donc écrites et présentées à Eugénie. Cette dernière, si elle ne trompa jamais son impérial époux, avait toutefois le goût du flirt. C'est ainsi qu'avec une complice, elle se rendit à un bal de village. Costumées toutes les deux en paysannes, elles furent entreprises par deux maçons dont les audaces entraînèrent l'intervention d'autres paysans, puis une bagarre générale, au cours de laquelle il apparut que les maçons étaient des princes travestis et les paysans, l'écuyer de l'empereur et son aide de camp, tous avertis de l'escapade, les premiers souhaitant profiter de la situation pour serrer de près les deux imprudentes, les seconds étant présents pour éviter toute mésaventure à l'impératrice. Arriva ensuite une intrigue nouée avec le marquis de Charnacé lors d'un bal masqué. Ce dernier, royaliste, légitimiste, lorsqu'il découvrit que l'objet de sa convoitise était l'impératrice, déclina la tentation d'aller plus loin, mais néanmoins les deux tourtereaux restèrent en contact et Eugénie se permit de converser en public avec cet homme qui détestait les Bonaparte au point de faire jaser. Mais l'homme lui avait glissé à l'oreille des propos lestes qui avaient émoustillé Joséphine, soudain flattée de ce désir abrupt. D'autres flirts avec un prince puis un officier d'ordonnance furent publiquement affichés. Louis, qui multipliait les incartades, ne souffrait pas que son épouse dévie du chemin conjugal. Et l'auteur d'une plaisanterie leste sur la croupe espagnole fut dardard muté en Kabylie. Un autre admirateur, le prince de Camerata, fut révolvérisé. Tout cela ne portait pas vraiment à autre chose qu'à des commérages, mais ces marivaudages allaient bientôt entraîner une catastrophe à l'international. Ayant reconnu lors d'une promenade en calèche à Biarritz, en un jeune homme qui l'a salué, un ancien ami d'adolescente, devenu diplomate, Eugénie l'invita et le réinvita à la Villa Eugénie. Le bel Hidalgo, car c'était son nom, lui évoqua le sort cruel des Mexicains soumis à la dictature implacable de Juárez et plaida pour un retour d'une monarchie catholique après avoir renversé l'ancien berger devenu dictateur. Le plan rejoignait les visées de Louis qui rêvait dès 1846 de se tailler un empire en Amérique centrale. Il songeait au Nicaragua et à y faire creuser un canal. Mais le Mexique, c'était bien aussi. D'autant que les États-Unis étaient alors empêtrés dans leur guerre de sécession. Eugénie fit tourner les tables, mais les esprits l'ayant dissuadée de tenter une telle aventure, elle persista et présenta Hidalgo à l'empereur qui écouta le plaidoyer du diplomate. L'affaire était tentante, d'autant qu'on assurait que Juarez était détesté par sa population et qu'ayant suspendu les conventions signées par son prédécesseur et donc les indemnités dues aux Anglais, aux Espagnols et aux Français, ayant en outre décrété qu'il ne rembourserait pas l'emprunt souscrit auprès de la banque suisse Jecker, son renversement se ferait sans problème et ne ferait de peine à personne et même bénéficierait d'un soutien international. À entendre les comploteurs, la population espérait en une monarchie et Napoléon rêvait de contrebalancer l'influence des protestants d'Amérique du Nord et de les entraver dans l'accès aux richesses minières du Mexique et d'en faire une terre d'accueil pour tous ces peuples pauvres d'Italie, d'Irlande, de Grèce, bref, de faire au Mexique ce qui avait réussi aux États-Unis.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
Entre ruido de cañones y metrallas surge una historia popular. De una joven que apodaban Juana Gallo, por ser valiente a no dudar. Siempre al frente de las tropas se encontraba, peleando como cualquier Juan. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin mirar se los tronaba con su enorme pistolón. Era el coco de todos los federales y los mismos generales. Va gritando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón. Noche que la guardia le tocaba, un batallón se le acercó. Sin mentirles a la zanja no llegaban, cuando con ellos acabó. Otra vez que se encontraban ya sitiados, teniendo meses no comer. Salió al frente con unos cuantos soldados, que apodaban colorados y salvó la situación. Por vengar la muerte de su chon amado, por su vida había jurado. Conspiración, ábrala que ahí viene Juana Gallo. Va gritando en su caballo, viva la revolución. Para los que son calumniadores, para todos los traidores, trae bien puesto el corazón.
Il faut dire que le règne de Napoléon III était marqué par un interventionnisme forcené, notamment en Asie. La seconde guerre de l'opium menée par l'Angleterre, la France et les États-Unis visait à ouvrir l'ensemble de la Chine au commerce occidental, à rendre licite le commerce de l'opium, à étendre l'évangélisation des populations, à permettre l'accès des chrétiens à la propriété privée et à faire payer à la Chine de copieuses indemnités pour avoir fait obstruction aux prétentions des trois nations. L'humiliation chinoise avait été complète avec le pillage du palais d'été par les troupes des généraux Charles Cousin de Montauban pour la France et Sir Hope Grant pour l'Angleterre, qui brûla durant 2 jours sans que nul en Europe à part Victor Hugo n'y trouve à redire. Le pillage n'eut pour conséquence que la privation de Charles Cousin de Montauban de son bâton de maréchal. Les coloniaux rétorqueront que grâce à ces traités inégaux, la Chine s'était modernisée, avait eu accès à une architecture et des plans de rue à l'occidental, à l'éclairage au gaz et à l'eau courante, et pour l'empereur chinois un pourcentage sur les échanges commerciaux. Après la Chine, il y avait eu l'Indochine. Un prétexte, La répression des empereurs successifs envers les populations converties au christianisme, les missionnaires et les prêtres. Les trésors de ce site unique s'étendant sur 350 hectares, composés de centaines de pavillons, de fontaines, de temples, d'un lac, peuplés d'ibis, de paons et de cygnes, attisaient les convoitises. Les jésuites avaient participé à ce joyau et partout on trouvait à profusion marbre, pierreries, jade, bronze, porcelaine et soieries. Après s'être partagé les richesses pillées qui allaient être attribuées à des dignitaires, Français et Anglais avaient mis le feu au site. À la manœuvre pour une conquête, le père Régis Huc, membre de la congrégation de Saint-Lazare, n'ayant jamais vécu en Indochine, mais défendant l'idée d'une Inde française regroupant Cochinchine, Corée et Madagascar. À la manœuvre également, Eugénie, horrifié de la décapitation du vicaire apostolique du Tonkin central qu'elle avait connu en Andalousie. Elle va donc pousser à une intervention, appuyée par le parti catholique, soutien constant à l'empereur. On va donc préparer en secret, et avec l'accord de Londres, une expédition pour s'emparer de Hanoï, Saïgon et Touran, expédition de 13 navires embarquant 1500 soldats français et 1400 espagnols. Après attaque et contre-attaque, ce sera le traité de Saïgon, la reconnaissance du catholicisme, la libre circulation et le libre commerce sur le Mékong et dans les principaux ports, des provinces, un protectorat sur le Cambodge, une copieuse indemnité. L'Empire français triomphe, la conquête du Mexique serait donc la cerise sur le gâteau impérial. D'autant qu'il y a un rêve secret. Une fois un empereur catholique installé, faire tache d'huile sur l'Amérique latine. Rester à trouver le bon candidat. Louis cherchait quel souverain placer à la tête du Mexique après en avoir chassé Juarez. Et là encore, Eugénie la catholique, proche des Autrichiens, suggéra l'archiduc Maximilien, frère cadet de l'empereur François-Joseph et époux de la princesse Charlotte de Belgique. Le piège mexicain était amorcé. Sur le papier, cela semblait tout à fait réalisable. Entre 1821 et 1850, 50 gouvernements s'étaient succédés. Le Mexique avait perdu le Texas, récupéré par les Américains. La population était très divisée. L'Église voulait un gouvernement catholique. Elle était le plus grand propriétaire terrien du Mexique. À ses côtés, on trouvait les populations indigènes. En face, côté libéraux, il y avait la bourgeoisie rêvant de mettre la main sur le foncier d'Église, un peu comme lors de la Révolution française, ainsi que les petits propriétaires. Les loges maçonniques se déchiraient entre elles aussi. Les conservateurs avaient signé avec l'Espagne un traité les engageant à rembourser les dettes contractées auprès des Européens. Pourtant, les décrets de 1827 et 1829 favorisant l'expulsion des Espagnols entraînèrent une fuite massive de capitaux et un effondrement des productions industrielles et agricoles au point que 90% du budget était consacré à l'armée. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, la campagne du Mexique à laquelle nous assisterons lors de notre prochaine rencontre sera ponctuée d'actes héroïques, mais se terminera en désastre.
Pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense. Maréchaux assassins, sur vos bustes d'airain, vos poitrines superbes. Vos médailles ne sont que fientes de pigeons de la merde. Un enfant est venu au pied de la statue du maréchal de France. Une envie naturelle l'a fait pisser contre elle, mais en toute innocence. Maréchaux assassin, le môme, mine de rien, a joliment vengé. Les enfants et les mères que dans vos sales guerres vous avez massacrés. Un clodo s'est couché une nuit juste au pied du maréchal de France. Ivre mort au matin, il a vomi son vin dans une gerbe immense. Maréchaux assassins, vous ne méritez rien de mieux pour vos méfaits que cet hommage immonde pour tout le sang du monde par vos sabres versés. Un couple d'amoureux s'embrasse sous les yeux du maréchal de France. Muet comme un vieux bonze, il restera de bronze, raide comme une lance. Maréchaux assassins, l'amour ne vous dit rien, à part bien sûr celui de la patrie, hélas, cette idée dégueulasse qu'à mon tour je conchis.